Code d'économie.
Bientôt la suspension pour 3 mois des importations de ciment gris, des barres de fer à béton et du sucre. Le ministre de l'économie nationale a fait cette proposition au conseil extraordinaire des ministres tenu hier jeudi. Nous reviendrons aussi sur les autres points évoqués à cette réunion. Dans ce magazine, nous parlons des richesses économiques des 26 provinces de la RDC. C'est l'objet même de la campagne de sensibilisation dénommée Congo Profond. Cette opération vise à présenter les 26 provinces du pays. Dossier rapport de l'ONG Global Witness sur l'exploitation illégale de l'or à Chabunda. Nous en parlons encore ce soir. La société civile de Chabunda réclame une indemnisation de 5 millions à l'entreprise chinoise qui exploite de l'or dans la rivière Oulindi. Elle exige également aux instances judiciaires du pays d'engager des poursuites contre cette société minière. Bonsoir à tous. Ouvrons ce magazine par la 11e réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jeudi 7 juillet 2016 à l'hôtel du gouvernement. Au menu, plusieurs examens et adoption des dossiers des textes concernant tous les ministères. Au menu également, la suspension pour 3 mois des importations de ciment gris, des barres de fer à béton et du sucre. Dans ce magazine, nous nous penchons sur le ministère des Finances, Économie, Fonction publique et Environnement. Les condensés avec François Kadima.
La question de ma mercuriale sur les ciments gris, les barres de fer à béton et les sucres importés était évoquée par le ministre de l'économie. Selon ce ministère, la fraude constitue une menace sérieuse sur l'industrie nationale du ciment, des barres de fer à béton et du sucre en RDC et provoque une véritable saignée des devises étrangères qui sont exportées illégalement vers l'étranger. Pour contrer cette saignée et protéger l'industrie nationale, il a été proposé le gel de toute importation de ces 3 produits le temps que les industries nationales soient en mesure d'écouler leurs produits. La période de blocage ainsi prévue est de 3 mois. À la fonction publique, 2 projets de loi ont été présentés au gouvernement par le ministère de la fonction publique. Le premier fixant les règles relatives au régime de la sécurité sociale des agents publics de l'État et l'autre modifiant et complétant celui du mois d'octobre 2002. Au ministère des Finances, il a été présenté 3 projets de loi modifiant et complétant celui du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif de droits et taxes à l'importation, autorisant la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine d'import-export à Faximbank. En outre, il a été présenté un projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de financement additionnel signé entre la RDC et l'Association internationale pour le développement. Et enfin, le ministère de l'Environnement, il était question du projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale relative à la gestion intégrée de ressources en eau du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi qui traverse la RDC, le Rwanda et le Burundi.
Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, a lancé cette semaine la campagne de sensibilisation dénommée Congo Profond. Cette opération vise à présenter les 26 provinces de la RDC. La campagne Congo Profond se déroulera en collaboration avec l'agence de communication Atlantic News Times. C'est une télé-réalité découverte, une compilation de documentaires qui vont présenter nos 26 provinces. Ce qu'elles ont comme valeurs touristiques, écologiques, sociales, économiques et même culturelles. Le directeur exécutif d'Atlantic News Times, Bruno Mbolisson, évoque ici les richesses économiques de ces provinces.
Mieux une compilation des documentaires, 52 documentaires sur l'ensemble de la République en raison de 2 documentaires par province. Il s'agit de présenter des potentialités touristiques, sociales, démographiques et économiques de chacune des provinces. Mais nous pensons que c'est également important pour que chaque gouverneur de province puisse profiter de ces documentaires pour lancer un appel aux potentiels investisseurs pour booster le niveau de développement de sa juridiction.
Vulgarisation hier jeudi en Mbandaka de la nouvelle nomenclature budgétaire de la RDC. Une 50aine de délégués des régies financières et services publics ont pris part à un atelier animé par des experts venus de Kinshasa. Cet outil, a indiqué le ministre provincial du budget Benjamin Lokondo, permettra de mieux appréhender l'apport de chaque entité au budget de l'État, mais aussi de faciliter l'évaluation des recettes et l'encadrement des dépenses publiques. Cette nomenclature est particulièrement codifiée et fondée sur les résultats au moyen des budgets programmés programme est pluriannuel. Suivez plutôt Jean-Martin Bouy, chef de division des dépenses de province et ETD au ministère national du budget. Il explique au micro de Paul Richard Malengela.
La décentralisation comme mode de gestion dans notre constitution du 18 février 2006 a remis en cause tous les textes des finances publiques. On a commencé depuis un certain moment à revoir le texte pour les adapter à la nouvelle mode de gestion. Aujourd'hui, il y a une nouvelle apparition d'un document aussi important dans la gestion des finances publiques qui s'appelle nomenclature budgétaire présentée en deux tomes. Le premier tome, ce sont les recettes et le second, ce sont les dépenses. Le budget programme va nous exiger une sorte de redevabilité, c'est-à-dire dans le passé, on gérait, mais à la fin, il n'y avait pas un rapport qu'on faisait à l'autorité budgétaire pour dire que voilà, des crédits que j'avais obtenus, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. On évoluait coûte que coûte, vaille que vaille. Mais avec le nouveau système, on peut arriver à savoir quelle affectation a été faite avec quel crédit. Ça va nous éviter les détournements des crédits. Et ça va permettre aussi une bonne gestion des finances publiques de toute la province si effectivement ces deux instruments ici sont observés, sont respectés.
Écho d'économie. À Kinshasa, lancement officiel cette semaine à l'hôtel Ruben du programme quinquennal Green Livelihood Alliance par l'ambassadeur de Pays-Bas. Ce programme vise à améliorer la gouvernance inclusive et durable de ressources naturelles. Trois ONG ont reçu 40 millions d'euros pour l'exécution de ces projets. Il s'agit des Tropen Boss International, Union International pour la conservation de la nature Pays-Bas et Amis de la Terre Pays-Bas. Ces consortiums de trois ONG ont identifié les problèmes majeurs qui se posent dans le paysage ou région ciblée. Alphonse Maindo, directeur pays des Tropen Boss International, explique la particularité de ce nouveau projet.
En RDC, ce qui va se passer, c'est que nous avons subdivisé la RDC en deux paysages pour intervenir dans ce pays. Il y a un paysage que nous avons appelé paysage Est, qui comprend donc les deux provinces, provinces du Nord et du Sud Kivu. Et nous avons un deuxième paysage qui comprend donc trois provinces, la province de la Mongala, province de la Tchopo et province de l'Ituri. Alors, dans ces deux provinces, nous avons fait des analyses des contextes préalables qui ont permis d'identifier qu'un certain nombre de problèmes majeurs qui se posent en ce qui concerne les ressources naturelles dans ces deux paysages-là. Et à partir de ces problèmes qui ont été identifiés, dans chacun de ces paysages, on a réuni les partenaires clés pour essayer de réfléchir, pour en choisir un ou deux maximum. Et à partir de là, construire maintenant une vision. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme changement par rapport au problème qui a été identifié? Et essayer de faire des voies, de trouver les voies pour arriver à obtenir ce changement-là. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les paysages.
Est-ce que ces financements sont disponibles et c'est à hauteur de combien de millions?
C'est 40 millions d'euros sur 5 ans.
Dans la ville de Kisangani, les vendeuses et vendeurs ambulants à la sauvette se plaignent de ce qu'ils qualifient des tracasseries de la part des percepteurs des taxes du marché central dans la commune Makiso. Que reproche-t-on exactement à ces précepteurs des taxes? Que dit l'équipe dirigeante du marché central? Nous en parlons avec Ayana Alipanagama.
Le marché central de Kisangani se trouve au cœur de la commune Makiso, au centre-ville de Kisangani. Construit depuis l'époque coloniale, ce marché regorge à ce jour plusieurs centaines de vendeuses et vendeurs de denrées alimentaires, de produits manufacturés et autres divers. Les marchandises sont exposées sur les étalages, tables, étagères, voire à même le sol. Sa saturation contraint d'autres vendeurs à se faire ambulants autour du périmètre immédiat du marché. En grande partie, ce sont ceux-là qui vendent des beignets, fruits, friperies et autres petits articles de consommation courante. Ces vendeuses affirment payer chaque jour la taxe d'étalage. Ils qualifient cela à tort ou à raison de tracasserie. Ils se sont plaints en ces termes.
Bafutisi bango chike, ba mayi ana kufutisa bana chike, moye zate.
les explications avec Norbert Bossengue, jurat adjoint du marché central en charge de l'économie et finances.
Le marché central a une superficie de 500 mètres carrés. Donc tout celui qui opère dans ces rayons de 500 mètres carrés, tout celui qui se promène avec ses marchandises sur la tête ou à la main, il doit payer cette taxe d'étalage. C'est chaque jour que les vendeurs doivent payer la taxe d'étalage. C'est selon que vous étalez une table d'une mesure de 1,20 m, là on doit faire payer une quittance de 300 francs congolais. Si c'est au-delà, 3, 4, 5 mètres, on vous fait payer aussi selon vous avez pris de l'espace au marché central. S'il a un grand espace, une grande table, il étale un peu par-ci par-là, on évalue, on voit la dimension, on lui fait payer même 4 vignettes, ça fait 1200 francs par jour.
Aliana Alipanagama, Kisangani.
Et pour terminer, la société civile de Chabunda réclame une indemnisation de 5 millions de dollars américains à l'entreprise chinoise qui exploite de l'or dans la rivière Olindi. Mais aussi, cette structure citoyenne demande aux instances judiciaires du pays d'engager des poursuites contre cette société minière. Ces résolutions ont été prises hier jeudi à Chabunda à l'issue de la rencontre de toutes les branches de la société civile locale. Cela fait suite au récent rapport de l'ONG Global Witness sur l'exploitation illégale de l'or à Chabunda. Maître Joseph Mpeseni, président de la société civile de Chabunda, est joint par Emmanuel Elamiju Akabi.
À l'issue de cette réunion, nous avons pris les recommandations selon lesquelles, pour la société KHM, elle doit suspendre sans délai l'exploitation le long de la rivière Olindi avec drag, tout en payant 10% du montant produit, cela équivalent à 5 250 000 dollars au profit des bénéfices de la population du territoire de Chabunda comme indemnité. Et cela en vertu de l'article 281 du code minier. Nous avons aussi recommandé au procureur général d'ouvrir une action judiciaire au compte de ces Chinois qui ont alimenté le Raia Mutomboki en armes et en cartouches. Si ces recommandations ne sont pas respectées, en dehors 48 heures, nous serions en train d'organiser d'autres actions de grande envergure. Peut-être la semaine prochaine, on peut passer soit à la ville morte, soit à une marche pacifique afin de respecter nos recommandations.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. We'll be right back.